Connaissez-vous l'IGEDD ou l'IGED? L'IGEDD, c'est l'Inspection Générale de l'Environnement et du Développement Durable. Elle conseille le gouvernement sur la transition écologique et énergétique, l'urbanisme, le logement, les mobilités, l'eau, la biodiversité. Découvrez le rapport annuel 2024 en podcast sur les plateformes ou sur www.igedd.développement-durable.gouv.fr.
18h10, 19h, Topette, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins sur Radio G.
Bienvenue dans Topette, la quotidienne de Radio G qui vous dévoile tout sur l'actualité locale. Lundi, on parlait de prévention suicide avec la direction santé publique de la ville d'Angers. Et cette semaine, on était tout en musique puisque mardi, on parlait de On Stage, un dispositif du Shabada. Et on parlait aussi de la Bocelle de Trélazé, un vivier musical du Maine-et-Loire. Et ce soir, on restera toujours un peu en musique puisque on sera avec les organisateurs, enfin des bénévoles de l'équipe organisatrice du festival Les Hérons Mat-le-Son. Ça sera le samedi 1er mars à Saint-Mathurin-sur-Loire. Il y en aura pour tous les goûts, rock, électro, pop ou encore musique du monde. Pensez à bien réserver votre date. Et on retrouve aussi ce soir les Dorcas ligériennes qu'on avait déjà accueillies chez Radio G. C'était fin 2024. On sera avec Amandine et Tiffaine qui étaient donc venues parler de leur projet. Et ce soir, elles sont venues accompagnées du mari de Amandine, Venceslas, qui pourra aussi nous parler de ce projet. Et la date du rallye approche à grands pas, donc on pourra parler de tout ça. Ce soir, on aura aussi la drôle de vie de Léo Nagral. Et on se quittera avec la bouteille aux trois quarts vide de Tonton Albert. Et Topette, c'est parti pour ce soir jusqu'à 19h.
18h10, 19h, Topette, sur Radio G.
Mais juste avant tout ça, on va partir en reportage avec Camille. Il est allé enquêter sur l'hygiène dans les fast-foods et notamment dans les kebabs.
12 kebabs vendus en France pour un total de 300 millions chaque année. Ces chiffres peuvent donner le tournis et sont bien ceux réalisés par l'industrie du kebab. Un sandwich gourmand qui séduit petits et grands. À Angers, comme partout en France, les normes d'hygiène sont également très importantes. Abdel, employé chez Tacos Food, nous en parle.
Bien sûr, c'est très important. Déjà, on travaille face à face avec les clients. C'est très important au niveau d'hygiène. C'est pas juste de montrer, mais de faire, de l'appliquer carrément.
Sans normes d'hygiène, pas de contact avec les clients, pas de préparation en cuisine, pas de kebab finalement. Et parfois, cela peut entraîner la fermeture des restaurants. Mais depuis 2012, une formation à l'hygiène de 4 jours est devenue obligatoire. Et cela est très important pour Abdel.
Bien sûr, c'est très important parce qu'il y a pas mal de trucs qu'il faut savoir. C'est comme comment on peut organiser les frigos, comment on peut travailler. On travaille avec les gants, on ne travaille pas avec les gants. Quand est-ce qu'on peut travailler avec les gants? Quand est-ce qu'on ne peut pas travailler avec? Comment on peut stocker? C'est une cuisine déjà. C'est une cuisine, il faut que ça soit vraiment propre. Il faut savoir tout, voilà.
Pourtant, malgré cette formation d'hygiène, les clients restent quand même vigilants, car bon nombre d'avis négatifs circulent sur les kebabs. Alors, pour avoir les idées plus claires, nous sommes allés directement demander leurs avis sur ces questions.
C'est très important parce que il ne faut pas tomber malade à cause d'une intoxication alimentaire. Et par exemple, j'ai déjà vu des personnes qui ont eu un clou dans leur kebab et ça peut être très grave.
Quand je vois que le kebab est un peu délabré ou quoi que ce soit, je fais demi-tour, quoi. Donc oui, c'est important.
Quand on entre dans un restaurant, on fait confiance au gérant du restaurant par rapport à sa conformité avec le règlement vis-à-vis de l'hygiène. Donc oui, c'est une part importante.
En 2006, sur une enquête menée par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, plus de la moitié des kebabs en France n'étaient pas conformes aux normes d'hygiène. Aujourd'hui, pour Tacos Food et l'ensemble des kebabs angevins, l'hygiène est importante et omniprésente pour accueillir les clients.
Vous pourrez retrouver ce reportage de Camille sur le site internet de Radio G. Et juste avant d'accueillir nos invités de ce soir, une petite annonce. La compagnie du Pont d'Ardoise va présenter leur comédie Panique au Plaza de Récounet. Ça sera les 15, 16, 21, 22 et 23 février à Thiercé et à Avrillé. Et maintenant, bah, on peut tout de suite accueillir notre invité du soir.
L'invité de Topette sur Radio G.
Je le disais tout à l'heure, on est en compagnie donc des Dorcas ligériennes ce soir. Et sous ce pseudonyme, on retrouve un duo inséparable. Amandine Gauthier, bonsoir.
Bonsoir.
Et Tiffaine Lévy, bonsoir.
Bonsoir.
Ensemble, vous allez participer au rallye Aïcha des Gazelles. C'est une épreuve 100% féminine dans le désert marocain. Si je dis pas de bêtises, ça sera le 4 avril prochain. Et vous étiez venu nous en parler dans Topette il y a quelques mois de ça. Mais pour ceux qui n'avaient pas écouté l'émission, est-ce qu'on peut peut-être rappeler en quelques mots ce qu'est ce rallye, Amandine?
Oui. Alors, le début, c'est le 11 avril.
Il y a eu
un petit changement, voilà. C'est pas grave. Donc, on va faire un rallye au Maroc, un rallye automobile. L'idée, c'est de relier des balises dans la journée à l'aide d'une carte, d'une boussole. Et l'idée, c'est de faire le moins de kilomètres possible durant les huit jours d'étape.
Et donc, les choses ont bien avancé, j'imagine, depuis qu'on s'est vu. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, Tiffaine?
Eh bien, du coup, on a avancé déjà du côté mécanique, puisque le 4x4 est en préparation plus concrète, voilà, du côté mécanique et de l'aménagement. On a aussi avancé du côté de la navigation, de la formation en navigation. On a eu notre formation par l'organisation Maenga à Avignon le dernier week-end de janvier, où on a appris à poser des points sur notre carte et à apprendre à lire aussi des reliefs sur la carte, en tout cas sur les cartes qu'on aura dans notre possession au moment de l'épreuve. Et puis on se prépare physiquement aussi et psychologiquement pour pouvoir partir à partir du 11 avril. Donc là, on est un peu dans les starting blocks et on continue du coup à chercher des sponsors, à préparer notre équipement aussi. Donc effectivement, par rapport à décembre, on a franchi pas mal d'étapes encore.
Et justement, si on continue à parler un petit peu du financement, vous devez réunir 37 000 euros pour participer. Où est-ce que vous en êtes dans cette collecte? Est-ce qu'il reste encore de l'argent et combien, Amandine? Vous êtes encore à la recherche de sponsors ou ça y est, tout est bouclé?
Non, pas du tout. On est toujours à la recherche de sponsors. On en a eu un encore cette semaine là, qui s'appelle La Guébar. C'est un bar tabac sur Saint-Mathurin, sur Loire d'ailleurs. Donc on est très très heureuse de les accueillir dans un team sponsor, mais on est toujours à la recherche de sponsors parce que là on a encore des frais assez importants au niveau mécanique, notamment sur le changement de pneus, sur l'assurance. On va faire notre stage de conduite fin février, début mars. Donc non, on est toujours à la recherche de sponsors parce qu'on n'a pas bouclé les 37 000 euros.
Et vous avez lancé plusieurs actions d'autofinancement. Il y a notamment un dîner dansant le 13 avril, si je ne dis pas de bêtises, qui approche. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en dire plus?
Alors, on aurait apprécié faire ça, mais du coup, le 13 avril, on sera sur la route pour le Maroc. Donc c'est
et
pas
bah
nous.
Oui, je dis des bêtises. Effectivement, est-ce qu'il y a des actions de prévues, des actions justement de ce genre, des événements pour pouvoir récolter de l'argent, ou c'est uniquement des partenaires qui vous permettent de financer votre projet, Tiffaine?
Alors, on a monté pas mal d'actions d'autofinancement jusqu'à la fin de l'année 2024, puisque c'était notre principale préoccupation. Et depuis le début de l'année 2025, on n'a pas remis en place d'actions d'autofinancement. On a fait une grosse soirée paella en septembre 2024. Là, on se concentre réellement sur la préparation concrète du rallye. Donc, pas d'actions d'autofinancement, mais à notre retour, par contre, on aura une grosse soirée de remerciement. Surtout pour nos partenaires, nos sponsors et puis tous les bénévoles aussi qui ont aidé et toute la famille qui a aidé à la réalisation de ce projet.
Si on donne un petit peu le micro à Venceslas, donc le compagnon d'Amandine, tu as aidé un petit peu apparemment sur le bricolage pour le 4x4, la préparation. Est-ce qu'il y a des choses particulières sur ce 4x4 à mettre, des aménagements à faire?
Alors le bricolage, il n'est pas encore fait. On a travaillé sur la conception. La commande des filles, c'était un peu de se dire comment on part avec un véhicule qui est quand même à l'origine c'est 4 places et un grand coffre, et comment on part avec un véhicule qui est adapté pour embarquer une roue de secours en plus, des compresseurs, du matériel de trek, ce genre de choses. Donc voilà, on a réfléchi un petit peu l'aménagement, mais je crois que c'est plutôt le papa de Tiffaine qui va le réaliser qui va l'adapter certainement, parce qu'il bricole pas mal aussi. Donc voilà où on en est.
Et Tiffaine, Amandine, ça a été quoi votre plus grosse difficulté jusqu'ici dans toute la préparation de ce rallye? Ça a été quoi la chose La tâche peut-être la plus compliquée à faire, est-ce que ça a été la préparation, se préparer, apprendre à placer des choses sur une carte ou des choses comme ça? Ou tout a été finalement plutôt...
La navigation, je dirais que ça aurait... c'est peut-être le plus simple.
Ouais, je crois qu'on s'est bien entendu sur le week-end de navigation. Il n'y a pas eu de prise de tête, donc ça augure quand même quelque chose de bien. Après, on va pas se cacher que la recherche de sponsors, ouais, étant pas du tout dans le milieu du commerce ou le milieu financier, la recherche de sponsors a quand même été un gros enjeu pour nous deux, de pouvoir aussi légitimer notre projet auprès des partenaires. Voilà, ça a été un gros travail sur les prémices de la préparation de ce projet. Voilà, après là, concrètement, c'est aussi la préparation psychologique de partir qui est aussi importante et qui, en tout cas pour moi, est un enjeu important. Donc voilà, après les choses se font assez naturellement. On avait construit notre projet en pensant étape par étape. On respecte bien notre rétro-planning depuis le début. On a atteint tous nos objectifs. Alors, pas objectifs financiers encore en entier, mais tous nos objectifs de préparation, d'achat du 4x4, de partenariat. Pour l'instant, voilà, on est plutôt pas mal. Donc ça se passe bien et on est assez sereine.
Eh bien, Amandine, Tiffaine, vous restez avec nous. Tout à l'heure, on continuera à parler de tout ça, donc du rallye. Mais juste avant tout ça, on va faire une petite pause musicale et on va écouter Hawaii de Bastring Julie. C'est un avant-goût un petit peu pour le festival dont on parlera tout à l'heure. écouter Hawaï de Bastringue Julie sur le 101.5 FM. Et vous êtes toujours à l'écoute de Topette. On est en compagnie de Amandine et Tiphaine des Dorcas ligériennes. On parlait tout à l'heure donc de toute la préparation à ce rallye. Et si on parle maintenant de l'engagement solidaire et humain, parce que du coup, il y aura une partie des fonds qui ira au secours populaire, il me semble. Concrètement, comment ça va se traduire, Tiphaine?
Eh bien, en fait, quand on a pensé ce projet, du coup, on a souhaité créer un partenariat avec une association pour alors partir pour notre challenge, mais aussi partir pour défendre des valeurs humanitaires et puis sociales, solidaires. Et donc, on a créé ce partenariat avec le Secours Populaire. Et aujourd'hui, une partie des financements que nous avons récoltés dans le cadre de sponsoring seront reversés au Secours Populaire à notre retour. Et en parallèle, on va donc courir dans la catégorie gazelle engagée pour défendre donc les valeurs du secours populaire et tenter de remporter des fonds à destination du secours populaire pour précisément la Commission Monde. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a construit ce partenariat.
C'était important pour vous qu'il y ait derrière ça quelque chose d'humanitaire, Amandine?
Oui, bah ça fait partie de nos premières réflexions quand Tiphaine est venu me proposer ce rallye. Je crois que ça fait partie. C'était la deuxième question, je pense. Est-ce qu'on part que pour nous
Il fallait qu'il y ait un enjeu derrière.
Ouais, je crois que ça nous tenait à cœur toutes les deux de se dire, on court pas que pour nous et pas que pour le plaisir, mais quitte à aller chercher une somme assez conséquente. Un peu plus, ça sera pas plus compliqué et de pouvoir servir concrètement aussi à une autre association vraiment dans ses valeurs de solidarité, quoi.
Venceslas, si tu t'empares du micro rouge, toi tu vois donc tout l'investissement de prêt nécessaire à un projet comme celui-ci. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus dans toute cette aventure?
Le temps, peut-être. au début, c'est rigolo parce que quand on regarde sur l'agenda partagé qu'on a avec Amandine, la publication sur Insta, truc, machin, et puis petit à petit, on voit que ça se remplit, et en fait, c'est le temps passé, parce que mine de rien, c'est beaucoup de prises de contact, de rendez-vous, de liens, vous toutes les deux aussi, beaucoup d'échanges, et puis là, c'est vrai que ça fait chaud. Un an et demi que vous avez commencé à vous y mettre, un an peut-être, un truc comme ça, et même si moi je cours pas, on vit rallye, on mange rallye, on discute rallye, enfin voilà, c'est devenu un élément important de notre couple, hein, finalement. Non, mais enfin voilà, c'est tout le temps qu'il y a derrière, et puis le temps.
Tiphaine, Amandine, est-ce que le soutien de Venceslas ou de celui de vos proches, il est important dans cette aventure? Est-ce qu'il vous aide beaucoup, Tiphaine?
Ouais, complètement. C'est pour moi, c'est un des éléments les plus importants, que notre famille, nos amis nous soutiennent. Alors, nous soutiennent par leur présence, nous soutiennent par leur aide, en fonction aussi de leurs compétences. Tout à l'heure, Venceslas parlait de l'aménagement du 4x4, donc ça passe par ça, ça passe par les bénévolats sur nos événements, mais ça passe aussi par le soutien psychologique, affectif qu'on peut avoir, et ça c'est primordial, parce que sans ça, je pense que c'est tellement un projet qui demande beaucoup d'endurance dans la préparation, cette endurance dont on aura aussi besoin sur la course, mais qui se prépare vraiment en amont. Si on n'avait pas eu tout ça, ça aurait été sûrement plus compliqué à certains moments, où on a eu des périodes où ça a été plus dur pour avancer, et les gens autour nous ont toujours soutenus, ont toujours cru en nous aussi, cru en notre capacité de pouvoir mener à bien ce projet. Et donc ça, effectivement, c'est primordial.
Et Amandine, justement, donc on est à pas loin de la date du grand jour approche. Comment on se prépare physiquement et mentalement aussi? Tout à l'heure, on disait qu'il y avait une grande préparation à faire. Comment on fait?
On fait du sport. On fait du sport, mais intelligemment, dans le sens où on travaille un peu toutes les parties du corps, parce que toutes les parties du corps seront... Il n'y aura pas que les bras, il y aura aussi les jambes. On travaille aussi le cardio, parce que quand il fera très chaud, qu'il faudra descendre du véhicule, remonter, dégonfler les pneus, remonter, repartir, redescendre. Voilà, ça va être un cercle sans fin toute la journée. Donc on prépare le cardio, le renforcement musculaire, hyper important. Et puis le psychologique, c'est prendre son temps. Et là, sur les derniers mois, c'est pas trop charger son agenda. En tout cas, de choses extérieures, pas trop chargé, pour pouvoir se concentrer et réviser correctement la navigation, être sûr qu'on a tout ce qu'il nous faut, que tout soit bien calé. Voilà, donc on se rajoute pas trop de charge mentale en dehors de tout ça. Alors après, il y a besoin de sortir quand même un peu, histoire de penser à autre chose, parce que, comme disait Vincent tout à l'heure, on mange rallye, on parle rallye, on vit rallye. Donc on essaye quand même d'avoir de temps en temps une petite bulle d'air.
Tiffaine, est-ce que tu rejoins Amandine sur ce point? Faut vraiment se préparer physiquement, mentalement aussi, c'est pareil?
Ouais, complètement, physiquement, effectivement. Alors moi, j'ai un peu moins de temps pour faire du sport, mais j'essaie de faire au mieux. effectivement, la question de l'hygiène de vie aussi, là, en amont de la course, depuis janvier, on fait attention. La question de pas remplir l'agenda, je partage complètement. En fait, on n'a pas le temps d'être ailleurs. C'est pas possible. Et du coup, ça demande à être disponible physiquement, psychiquement, et du coup, d'être aussi sereine au moment où on peut pas se permettre de partir dans le speed, quoi.
Eh bien, on vous souhaite beaucoup de courage. On vous reste avec nous. On rappellera en fin d'émission, si jamais on est une entreprise et qu'on veut vous soutenir, on rappellera toutes les informations pratiques en fin d'émission. Mais juste avant d'accueillir notre deuxième invité du soir, on va écouter La drôle de vie de Léona Graal.
La drôle de vie, la drôle de vie, la drôle de vie.
Les restaurants chinois et traiteurs asiatiques ont beaucoup de succès en France. La raison ? Une nourriture d'assez bonne qualité, des saveurs uniques, un prix attractif et surtout un service rapide. Tellement rapide qu'on a du mal à suivre.
Bonjour, c'est à qui s'il vous plaît ?
Oui, bonjour, c'est à moi.
Oui monsieur, un menu à 10, à 13, à 2, à 64, à 8 ?
Un menu à 8 euros s'il vous plaît.
Très bien, à emporter ?
Oui.
Très bien monsieur, et en entrée, des beignets vapeurs, de la salade de poulet, salade de crabe avec de la sauce, des nems de poulet, des nems de porc ?
Salade de crabe s'il vous plaît.
Avec quelle sauce monsieur ?
Je vais vous prendre la sauce piri piri, chichi, foufou, glouglou, pif paf, tagada, tagada, twan, twan, pouet, pouet.
Très bien, en accompagnement monsieur, du riz cantonné, du riz thaïlandais, du riz nature, des nouilles sautées, du verre pilé.
Nouilles sautées.
Avec du poulet caramel, du porc sucré, du bœuf séché, du canard laqué, du poisson pané. Du calamar sauce épicée, potelettée, tapot de la touée.
Poulet caramel, s'il vous plaît.
Poisson et dessert, monsieur.
Non, merci.
On a du canek ding dong dagné, si vous voulez.
Non, ça va aller.
Vous voulez pas un peu du...
Ça ira, merci.
Il nous reste aussi du...
Non, ça va, merci.
Très bien, monsieur, tenez-vous là pour vous, bon appétit, ça fera 8 euros, merci, au revoir, monsieur, bonne journée.
Pour ceux qui sont moins pressés, vous pouvez également vous rendre dans des restaurants asiatiques avec un buffet à volonté. Et on connaît tous quelqu'un prêt à tout pour le rentabiliser.
Jean-Marc, tu vas quand même pas t'enfiler tout ça.
Mais Marion, c'est un buffet à volonté, il faut tout manger pour rentabiliser au maximum. Tiens, passe-moi la plante là-bas.
Mais tu pourras jamais tout finir.
Je crois que tu me sous-estimes, Marion.
Jean-Marc, tu me fais peur.
Je viendrai à bout de ces maudites assiettes.
Quoi ?
Je viendrai à bout de ces maudites assiettes.
Oh ! Qu'est-ce qui se passe ?
On dirait bien que c'est l'heure, Marion.
Ah, je croyais que c'était l'heure de manger.
Enchanté, jeune guerrier.
Qu'est-ce qu'il fout là, lui ?
Je me prénomme Yagaragin Gorogongaragin Garagang.
Oh !
Mais vous pouvez m'appeler Paul.
Ah !
Je suis le gardien du dragon céleste. J'apparais en ces lieux lorsqu'un client ose me défier, moi et mon buffet à volonté.
Dites, vous pouvez pas diminuer un peu l'écho, là ? On comprend rien.
Non, je garde mon écho, ça fait plus mystérieux.
Bah, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez un écho surdimensionné.
Oui, je suis très écocentrique.
Ce jeu de mots d'une qualité plus que discutable vous a été présenté par les restaurants italiens Les Délices d'Aldini.
Les Délices d'Aldini, oh oui, Les Délices d'Aldini.
Et que nous vaut l'honneur, cher gardien du ragoût céleste ?
Dragon.
On s'en fout.
J'ai une épreuve pour toi, Jean-Marc.
Ah bon ?
Si tu arrives à finir notre assiette spéciale, tu pourras devenir le maître du buffet.
Vous avez dit le maître du buffet ?
Non, j'ai dit le maître du buffet.
Ah pardon, j'avais oublié le petit son.
Jean-Marc, tu vas quand même pas continuer ?
Il le faut, Marion.
Mais...
Je dois devenir le maître du buffet !
Non, c'est le maître du buffet.
Oui, bon bah ça va !
Et évidemment, ces personnes sont toujours celles qui ont les yeux plus gros que le ventre.
J'en peux plus.
Il vous reste encore le dessert.
Hein ? Le dessert ?
Quel dessert ?
Oui, le dessert.
Le dessert ?
Oui, le dessert.
Ah bon, le dessert ?
Oui, le dessert. Si vous voulez partir, vous devez prendre un dessert. Nos gâteaux n'attendent que vous.
Pour de vrai ?
Oui, regardez, ils sont là-bas sur la table.
Alors, tu viens de manger, on t'attend, nous ?
Vous n'avez pas quelque chose de plus léger, genre des fruits ?
Ah oui, bien sûr. Vous pouvez prendre des kiwis si vous voulez. Ils sont délicieux.
Super, merci, je vais prendre ça.
Aïe, mais non, je parlais pas de mes kiwis à moi, espèce d'abruti !
Bah, je pensais que je pouvais.
Lâchez mes. Espèce de.
La drôle de vie.
La drôle de vie de Léona Graal a retrouvé dans l'onglet Podcast Plus du site internet de Radio G. Et on accueille maintenant notre second invité du soir.
18h10, 19h, c'est Topette sur Radio G.
Et on est toujours en musique, enfin du coup on revient en musique. Bonsoir Julien. Oh, pardon, bonsoir.
Bonsoir.
Et bonsoir Pépito.
Bonsoir.
Vous faites tous les deux partie de l'équipe bénévole qui organise le festival Les Hérons Mat Leçon. Donc ça se passera à Saint-Mathurin-sur-Loire et ça sera le 1er mars. Alors pour nos auditeurs qui connaissent pas le festival, comment on pourrait le décrire en quelques mots, Julien ?
Eh bien, c'est un festival familial avec voilà une petite salle de 550 places, 580, dans lequel on retrouvera des groupes rock, une bonne ambiance. Voilà, c'est un moment plutôt convivial et chaleureux, quoi.
C'est un festival en intérieur, en extérieur, parce
en
que
intérieur.
Tu parles de salle.
Ouais, c'est ça,
en
c'est
intérieur.
En intérieur, ouais. Ouais, au mois de mars, c'est mieux.
C'est vrai que c'est peut-être mieux pour le temps, on sait jamais, en mars. Donc le festival, il en est déjà à sa 15e édition en 2025, si je dis pas de bêtises. Comment le festival, il a évolué depuis sa création, Pépito? Est-ce qu'il y a eu des moments marquants dans l'histoire du festival?
Des moments marquants, je sais pas, parce qu'en fait, le fait que ce soit une salle et une petite jauge, finalement, il a pas tant évolué que ça au niveau de son ADN, on va dire. C'est toujours resté un festival rock avec une jauge de 550 personnes, donc un peu la même ambiance, très proche des artistes. Maintenant, il a évolué plutôt avec un petit plus cette année. On a un food truck qui arrive. Voilà, on essaie de faire des petites choses à notre niveau. On peut pas révolutionner le festival de par le bâtiment, en fait. Mais on a à cœur de le conserver aussi dans ce système-là. Ça nous va bien.
Ça fait partie de l'ADN du festival de ne pas être un très gros festival et de rester proche des artistes.
Oui, des artistes et puis de nos bénévoles. En fait, on est resté dans le village depuis le début du festival et finalement, je suis convaincu que si on passait à autre chose de plus grand, on perdrait déjà une partie des bénévoles. Même s'ils se renouvellent un peu, on a quand même toute une équipe qui est là depuis le début. Et puis voilà, donc on a à cœur de garder ce festival comme il est finalement. Le vrai challenge pour le festival, c'est la programmation finalement.
Et justement, c'est à Saint-Mathurin-sur-Loire, donc dans un petit village. Pourquoi avoir choisi ce lieu pour ce festival, Julien ?
Eh ben parce qu'on y vit.
Tout simplement.
Tout simplement. À la base, effectivement, c'est des amis là qui avaient leurs enfants dans les mêmes écoles, qui vivaient dans le village, qu'on eu envie de monter cette aventure-là. Et puis ça perdure avec du renouveau aussi dans les bénévoles. Et ouais, on est attaché à faire vivre aussi le village et à créer des événements qui rapprochent les gens. Donc on a envie que ça reste là et que ça continue à vivre un peu de cette manière-là.
Et si on explique un peu le nom du festival, les Hérons, Matt, Leçon. Alors Matt, peut-être pour Saint-Matt, j'imagine.
Exactement.
Les Hérons, est-ce que si on détaille un petit peu, Pépito?
Eh bien, les Hérons, je vous invite à prendre la levée les soirs d'été et vous verrez que des Hérons, il y en a partout dans cette vallée. Donc voilà, ça a été un peu une évidence. C'est Gilou de l'époque qui nous avait trouvé ce nom-là. Voilà.
Alors, si on se concentre un petit peu plus maintenant sur la programmation, il y aura pas mal de groupes. Tout à l'heure, on a écouté un groupe dont tu fais partie, Julien, Bastringue Julie. Comment vous choisissez les groupes qui participent à ce festival?
Alors, je vais répondre un peu, puis je vais te laisser un peu la parole, plutôt parce que c'est toi qui es dans l'équipe de programmation. Mais dans l'idée, en tout cas, c'est de rester quand même toujours dans l'idée de la musique rock. Donc on essaye de pas s'éloigner de cette ambiance-là, même si on essaye de diversifier, que ça puisse être du ska, du rockabilly, un peu de punk, enfin on essaye des fois voilà de varier les styles, mais de rester quand même dans cette ambiance rock. Et puis après, bah, on est quand même un petit festival, donc on n'a pas un énorme budget, ce qui nous permet pas d'aller chercher des énormes têtes d'affiche. Donc il y a un gros travail de l'équipe de prog pour aller négocier et essayer de récupérer des artistes quand même qui ont un peu de réputation pour attirer du monde. Et puis aussi, du coup, des petits groupes locaux, on essaye. Donc là, c'est le cas pour Bastringue Julie, du coup, on est sur Angers. Et ça permet aussi voilà de faire découvrir un petit groupe et puis après de faire jouer des plus gros groupes qui vont attirer du monde. Et après, je te laisse la main, Pépito.
Ouais, non, mais je pense que t'as à peu près tout dit. C'est comme je le disais tout à l'heure, c'est le challenge du festival, c'est vraiment la programmation parce qu'on n'a pas un budget extensible. Et finalement, les choix, ils viennent un peu à nous comme ça. Cette année, on a Didier Van Passe qui vient. C'est souvent des situations de carrière pour eux, un lancement d'album, c'est des choses comme ça. On arrive à avoir des groupes comme ça de temps en temps, mais c'est souvent le choix se fait de lui-même entre ce qu'on voudrait et ce qu'on peut faire. Il y a une nette différence.
Et justement, si on peut décrire un petit peu les personnes qui vont venir. Alors Didier Van Passe, Psycho Attack, Lemon Furia. Alors je ne sais pas si je les prononce tous bien, mais comment on pourrait les décrire?
Eh bien, sur Lemon Furia, on est sur de la tendance punk avec beaucoup de cuivre, punk ska punk, on va dire, très festif. Pour ce qui est des Van Passe, la version Psycho Attack, parce que Didier Van Passe a plein de versions de lui-même, on va dire. Là, on est plutôt dans ses débuts, un peu inspiré rockabilly et ce que sait faire aussi Didier Van Passe, son jeu de scène et le personnage, quoi.
Ouais, ce qu'il appelle du psychobilly, du coup.
Voilà.
Et donc, si on parle des autres, par exemple, bah du coup, Bastringue Julie, c'est quoi comme type de rock, Julien?
Bastringue Julie, c'est quoi comme type de rock? C'est hyper compliqué de répondre. C'est une vraie question qu'on se pose aussi dans le groupe, d'ailleurs. C'est un mélange, en fait, je crois, de plein d'influences. On peut dire que voilà, c'est du rock français avec du texte qui est plutôt assez pointu, on va dire ça comme ça, et des cuivres du coup qui vont accompagner ça. Et on navigue en fait entre différents styles, toujours autour du rock, toujours avec un côté voilà un peu saturé, mais on navigue de voilà. Donc on a tout à l'heure on a écouté Hawaï qui nous fait penser un peu à la musique des îles. On va retrouver des musiques beaucoup plus rock, des choses qui vont être aussi un peu plus avec des effets mélodiques presque gitans, presque des trucs voilà. Il y a vraiment une espèce de mélange de fourre-tout, ce qui fait que voilà on invite toujours les gens à venir écouter plutôt qu'à lire les descriptions parce que voilà nous on se marre à faire plein de trucs différents.
Et tout à l'heure vous parliez donc que le festival se déroulait dans une salle et donc il y a un lien important entre le public et les artistes vu que c'est une petite salle. C'est important pour vous qu'il y ait ce lien?
Bah oui, concrètement, quand les artistes descendent de la scène, ils n'ont pas d'autre choix à moins de passer par l'extérieur, mais de traverser la foule pour rejoindre leur salle de repos. Donc, ouais, il y a quand même on a à cœur de conserver ça en tout cas. Le lien entre le public et l'artiste, et puis ça reste une petite jauge. Quand on est à un concert de 500 personnes, on n'est jamais bien loin de la scène en fait.
Et si on peut un petit peu donner à voir aux auditeurs à quoi ça va ressembler ce festival? Est-ce qu'il y aura des éléments de décor particuliers ou est-ce qu'on reste assez sobre finalement dans la décoration, Julien?
Bah dans la décoration, on reste assez sobre dans l'ensemble. Après, on a quelques rappels de notre Héron à différents endroits, et puis on a toujours le stand avec les différents artistes qui vont pouvoir proposer leurs goodies, etc. Cette année, effectivement, on va avoir le food truck à l'extérieur là, qui va nous apporter aussi un petit plus qui est plutôt chouette. Non, après voilà, ça reste une salle des fêtes qui a été un petit peu réaménagée parce qu'on met du poster un peu partout et puis voilà quelques éléments, mais voilà, ça reste une petite salle des fêtes quand même.
Bah, disons que quand on a placé la scène, quand on a le bar l'autre côté, la régie avec les techniciens, le merchandising et puis les ventes de tickets, bon bah voilà, on a rempli la salle déjà.
Et c'est un festival, j'imagine, qui vit beaucoup grâce aux bénévoles, comme de nombreux festivals. Quel rôle ils jouent ces bénévoles, justement?
Ils font tout. On a deux équipes. Hein. On a une équipe vraiment plus sur l'organisation de personnes qui souhaitent s'investir un peu plus. Donc ça commence déjà par l'équipe de programmation qui travaille dès l'été pour commencer à démarcher, à écouter. Ils se rencontrent régulièrement pour partager leurs découvertes et essayer de voir qu'est-ce qui est accessible ou pas aussi. Donc voilà. Ensuite on a l'équipe du sponsoring qui elle va aller démarcher un peu partout parce qu'on a besoin quand même de financement pour pouvoir prendre des groupes aussi qui ont des fois un petit peu plus de renom. Et puis derrière, on a toute une équipe qui fait de l'affichage, on a ceux qui font la communication, on a ceux qui font l'administratif, on a ceux qui préparent la cuisine. Donc tout ça demande un gros taf. Et derrière, on a besoin de personnes le jour même, en fait, hein, pour gérer, pour tourner entre les différents postes qu'on se donne. Donc ça représente, ça peut aller jusqu'à une quarantaine de bénévoles. Et puis là où c'est vraiment un petit festival familial, c'est qu'en plus de ça, on héberge les artistes. Alors en fonction des groupes, des fois on peut louer un gîte parce que on a des difficultés des fois à avoir assez de place ou des choses comme ça. Mais dans l'ensemble, en fait, on essaye de garder l'idée que on les accueille, ils viennent dormir dans nos maisons, on les reçoit correctement, on les choye un peu et qu'ils passent un bon moment, quoi.
Et justement, quels sont les plus grands défis que vous avez pu rencontrer dans l'organisation de ce festival? Est-ce qu'on est confronté à des défis, à des choses un peu plus compliquées que d'autres, Pépito?
En fait, le plus gros défi, je pense que c'est l'évolution du monde et l'évolution des finances, finalement. On a des choses qui coûtent de plus en plus cher et outre la programmation avec le budget, on a aussi un des gros points du festival, c'est de pas augmenter la place.
Le tarif de la place.
Le tarif, en fait, de la place, quoi. On est encore un festival à moins de 20 euros. Il n'y a plus beaucoup de soirées à moins de 20 euros aujourd'hui. Voilà, pour combien de temps encore, on ne sait pas, mais on flirte avec le zéro, en fait. On est une association. On n'a pas pour but de gagner de l'argent, finalement. L'idée, c'est que ce soit juste équilibré.
Parce que du coup, on est porté par le comité des fêtes de la commune. Hein. C'est eux qui sont qui gèrent le festival. Donc, on a deux événements avec le 14 juillet. Notre objectif, c'est juste de pouvoir maintenir les événements chaque année sans rajouter plus. Donc, déjà rien que de maintenir, c'est déjà un peu un petit challenge quand même.
Ouais, un festival qui essaye de maintenir son ADN et il est bientôt venu l'heure de nous quitter ce soir pour Topette. Si on rappelle un petit peu les informations pratiques, Julien Pépito, les dates, le tarif, où est-ce qu'on retrouve toutes les informations pratiques pour ce festival?
Bah, sur les affiches, on peut vous les redonner rapidement. Le tarif en réservation, il sera à 15 euros. Il est à 18 euros sur place. Vous pouvez retrouver les billets en vente sur Hello Asso et au point de vente à Saint-Mathurin, au bar La Gabarre. Et c'est voilà, c'est le 1er mars, ça commence à 20h. Et voilà.
Et après, voilà, vous pouvez aller sur Facebook, les réseaux sociaux, pour aller regarder les publications des groupes et des ronds. Et puis voir un petit peu tout ce qu'on met pour animer événement-là.
Et on est accompagné cette année par Galette Paillette,
ouais,
le food truck, le petit plus de cette année. Voilà.
Eh bien, on donne rendez-vous à nos auditeurs donc le 1er mars à Saint-Mathurin. Et si on reprend nos invités maintenant dans l'ordre chronologique, on était aussi accompagné des Dorcas ligériennes, donc de Tiffaine et Amandine. Si on est une entreprise et qu'on veut vous soutenir en vous sponsorisant, comment on fait? Où est-ce qu'on a les infos pratiques, tout ça? Comment ça se passe, Tiffaine?
Vous pouvez nous retrouver sur Instagram sous le nom Les Dorcas Ligériennes. On a aussi une page sur Facebook donc qui s'appelle Les Dorcas Ligériennes. On peut aussi retrouver notre équipage sur le site internet du Rallye Aïcha des Gazelles. Nous sommes l'équipage 230. Vous y découvrirez une présentation de notre équipage, tous nos sponsors et puis voilà, des moyens de se mettre en lien avec nous. Voilà, globalement les
on pourra vous suivre justement pendant cette aventure.
Oui. Tout à fait, vous pourrez nous suivre sur le site internet du rallye. Vous pourrez nous suivre en temps et en heure. Voilà, ça sera possible de visualiser sur une carte où on en sera dans la journée sur notre périple. Et puis de suivre aussi la quotidienne du rallye Aïcha des Gazelles à la télévision, sur le site internet. Et puis Chéri FM est aussi un partenaire du rallye où il diffuse tous les jours donc la quotidienne. Voilà.
Et Amandine, les prochaines dates qui arrivent, c'est quoi? C'est la date de départ du rallye?
Alors, il y a d'abord le 1er mars, du coup, on ne sera pas où Héron batte le son. On sera le 1er et 2 mars dans notre stage de conduite à Nantes, où là, du coup, on va être avec Simone en train de passer des barrages.
Simone, on le rappelle, du coup, qui est le 4x4, on le disait hors antenne, mais on ne l'a pas rappelé à la radio.
Voilà, et puis après, ça sera le départ, le 10 avril d'Angers, direction Nice.
Avec juste pour rappel un peu des échéances, du coup nous le 10 on prend la route avec d'autres équipages de Bretagne pour descendre jusque dans le sud. Le 11 on a notre journée de vérification technique et administrative et le 12 est le départ médiatique de la course donc qui se fait à Monaco et puis après on débute on prend la ligne de départ dans le désert marocain le 16 avril.
Eh bien, c'est noté pour nous. On vous suivra depuis la France, du coup, sur le site internet. Nous, demain, on sera accompagnés de Loire-Authion. Et pour ce soir, on va se quitter avec la bouteille aux trois quarts vide de Tonton Albert. Moi, je vous dis à demain et topette.
Alors, Tonton, qu'y a-t-il dans ta bouteille aujourd'hui?
Comme souvent, du vide. Avec en fin de bouche une bonne dose d'inquiétude. Je n'ai pas pu m'empêcher de rebondir sur le concept le plus à la mode en ce moment, à savoir l'intelligence artificielle IA pour les intimes. C'est curieux, lorsque je n'en perçois que les initiales IA, je crois entendre braire un âne. L'âne dont le bonnet a longtemps incarné le symbole scolaire de la bêtise. Le renversement de tendance me paraît assez savoureux.
Notre tonton joue toujours sur les contrastes.
Si tu le dis. Tout aussi déconcertante que la vague analogie que je viens d'évoquer, c'est l'annonce de cette pluie de milliards pour développer un machin qui, au final, a de bonnes chances de s'apparenter à une dystopie, à rendre jaloux les scénaristes des films de science-fiction les plus délirants. Ce n'est tout de même pas un hasard si, dans le domaine de l'IA, la Chine est à la manœuvre. Et étrangement, si la Chine s'investit autant dans l'intelligence artificielle, ça n'est assurément pas pour promouvoir la démocratie et les droits humains. Et d'ailleurs, à propos d'IA et de démocratie, j'ai relevé que l'élection présidentielle roumaine a été annulée en raison de manœuvres destinées à promouvoir un obscur candidat sur les réseaux dits sociaux, TikTok en l'occurrence. Mais surtout, orchestré depuis des faux comptes web et des influenceurs réels ou fictifs. Quand on cherche à manipuler, n'est-ce pas, on ne va pas lésiner sur les moyens mis en œuvre. On notera qu'aux États-Unis, il n'a pas été nécessaire d'avoir recours à de telles pratiques, étant donné que l'électeur états-unien est déjà décérébré.
À part cette ingérence de l'IA en politique, j'imagine que tu as également d'autres griefs à formuler.
Toi, tu commences à bien me connaître. L'impact environnemental, par exemple, est colossal. La consommation d'énergie, il faut beaucoup d'électricité pour faire fonctionner nos fameux data centers. Beaucoup d'eau aussi pour refroidir les dits data centers et ainsi empêcher leur surchauffe. Et bien sûr, c'est gourmand en matières premières, en métaux rares tout particulièrement. Et bien évidemment, plus l'IA va s'avérer performante, plus la sollicitation des data centers et donc la consommation d'énergie, d'eau et de matières premières va s'accroître. La courbe est même exponentielle, autrement dit vertigineuse. S'ajoute à cela l'inévitable effet rebond. Toute nouvelle technologie apporte en général un gain d'efficacité énergétique. Sauf que ce gain d'efficacité énergétique sera annulé par l'augmentation des usages dont je parlais juste avant. Notre croyance en une technologie miraculeuse qui va nous tirer de tous les pétrins dans lesquels nous nous obstinons à nous fourrer risque fort de nous faire écrire un nouvel épisode avec l'IA. Au Moyen-Âge, on croyait dur comme fer au pouvoir des sorcières et des bonnes fées. De nos jours, on reste toujours convaincu des vertus de la baguette magique que l'on a rebaptisée « progrès technologique ». La question fondamentale du développement de l'IA, c'est tout de même de savoir ce que l'on veut en faire. Et là, il y a fort à parier que doper la fabrication de trucs inutiles grâce à l'IA a de bonnes chances de motiver nos contemporains.
Je te sens encore plus bougon que d'habitude, mon tonton. Dernièrement, il y a eu à Paris un sommet international consacré à l'intelligence artificielle. C'était plutôt une bonne chose, non ?
Eh bien, si tu veux me faire dire que l'intelligence a atteint des sommets, je crains de te décevoir. Quand je regarde un peu ce qui se passe dans notre vaste monde, j'aurais plutôt tendance à penser que c'est la stupidité qui atteint des sommets. J'ajouterais même que le terme « intelligence artificielle », selon moi, ressemble fort à un oxymore, comme un politicien honnête, par exemple. Bref, un sacré paradoxe. Tu me diras, il n'est pas incohérent d'affirmer que la bêtise humaine, quant à elle, relève du pléonasme. Mais je vais terminer cette chronique sur une lueur d'espoir.
Oula, je redoute le pire.
Voilà qui fait plaisir. Récemment, j'ai pensé inviter un ami et sa compagne à passer un week-end dans cet agréable village de Saint-Rémy-la-Varenne. Et pour envoyer mon invitation à cet ami et à sa Karine, non Manon, je n'ai pas prévu de les priver de sucre pour leur café, j'ai utilisé mon smartphone. Et c'est là que ça devient savoureux. En tapant mon SMS, lorsque je suis arrivé au cas de Karine, l'écriture de l'initiale a immédiatement entraîné une suggestion étonnante.
Laquelle, tonton ?
Aussi bizarre que cela puisse paraître, la phrase « tu viendras avec ta K » a abouti à « tu viendras avec ta kleptomane ». Oui, aussi déconcertant que cela puisse paraître, toute personne invitée chez des amis vient d'office avec sa kleptomane. Il vaut mieux planquer l'argenterie si l'on persiste à inviter chez soi un tel couple. Mais ce n'est pas fini. Car après l'initiale, arrive la première voyelle du prénom. Et pour mon smartphone, décidément très en verve, si je tape K-A, j'obtiens, à ton avis, Manon ?
Je ne sais pas, moi, kamikaze ?
Eh, pas mal, mon ami, pas mal ! Tu n'es pas tombé loin. Le smartphone m'a proposé Kalachnikov. Tu imagines quand tu es invité chez un copain, pour le smartphone, tu as le choix entre y aller accompagné par une kleptomane afin de débrasser le dit copain des babioles qui encombrent son intérieur, ou bien de venir armé d'une Kalachnikov, histoire de bien faire le ménage avant de repartir. Aussi, tant que nos ordinateurs seront capables de nous suggérer de pareilles drôleries, l'IA ne me fera pas plus peur que ça. J'ajoute un dernier mot. Christophe, l'un de mes amis, est auteur de bande dessinée. Il a écrit un bouquin consacré à l'IA qui s'intitule « L'intelligence artificielle s'amuse ». C'est drôle et caustique, tout en amenant le lecteur, la lectrice, à s'interroger sur ce que peut nous apporter cette nouveauté, qui d'ailleurs n'en est pas vraiment une. J'indiquerai le moyen de vous procurer l'ouvrage sur mon site d'internet, lesaltimbooks.com, comme d'habitude. Portez-vous bien.